Bien, alors je vais aborder ce matin, dans le cadre de cette conférence, que j'ai envie d'appeler une question d'actualité, dans la mesure où sont actuellement en discussion un certain nombre de modifications et de réglementations prudentielles. Et puis le comité de Bâle doit déboucher dimanche sur des propositions a priori totalement arrêtées avec le calibrage. Alors je ne les connais pas, bien sûr, hein. Et donc, mais on peut faire des hypothèses, on a des éléments. Ce qui veut dire par conséquent que je vais vous parler de la crise financière, d'abord sous l'angle des réglementations prudentielles que l'on envisage désormais de mettre en œuvre pour éviter qu'un tel, type d'accident puisse se reproduire, mais également sans doute en revenant un peu en arrière du coup, sur les causes de cet accident systémique. Alors, dans ce cadre, à titre d'avant-propos, quelques petits rappels. Nous savons tous que la crise qui se déclenche à la fin du mois d'août 2007 et qui explose à l'automne 2008 obéit à tout un ensemble de phénomènes de caractère microéconomique liés à un nombre d'innovations. On a qualifié de crise des subprimes, hein, cette crise. Mais en réalité, au-delà de cette dimension, au-delà du contexte macroéconomique, c'est d'abord une crise bancaire. Une crise bancaire qui a très vite pris une dimension systémique. Et c'est la raison pour laquelle, si les pouvoirs publics, dans un premier temps, se sont évidemment consacrés au sauvetage du système, en alimentant en liquidité, puis par le jeu également d'une augmentation de la dépense publique, le système économique devenu défaillant à cause du credit crunch qui était en train de se dessiner, dès le départ, très vite, il s'est agi de reconstruire une architecture financière de nature à éviter que cela ne puisse dans l'avenir se reproduire. Alors on sait tous que ça s'est réalisé dans le cadre du G20, lors de toute une série de sommets à partir du mois de novembre, hein, dès la fin de l'année 2008, au mois de novembre, puis ensuite à Londres, bon, on a toute la litanie des sommets du G20, et on aura les 11 et 12 novembre prochain à Séoul, un prochain sommet qui est supposé avaliser les propositions qui auront été formulées par le comité de Bâle sur la supervision bancaire. La feuille de route qui avait été dessinée par les politiques dans le cadre du G20, était assez large, puisque ça impliquait à la fois les problèmes de rémunération, par exemple, des traders ou des dirigeants, la question des hedge funds, la question également d'un contrôle éventuel sur les agences de notation, hein, dont on a parlé hier avec Daniel Cohen. Mais le cœur des propositions qui commencent à se dessiner au moment donc de la diffusion de ces textes porte sur la réglementation des banques. Et donc des dispositifs prudentiels. Et très vite d'ailleurs, en regardant ces textes, pas les communiqués, mais les annexes, qui sont souvent assez intéressantes, qui sont longues, qui détaillent la façon dont on perçoit les réformes, eh bien, il y a déjà une sorte de changement de ton, de changement de lexique, qui apparaît dans les déclarations du G20. Il est intéressant, par exemple, de comparer les déclarations qui avaient été formulées après la crise asiatique, par le G7, lors du sommet de Cologne, qui se tient en 1999, où, à l'époque, on parlait beaucoup, dans ce type de texte, de transparence de l'information, de code de conduite, de discipline de marché. Et quand, à l'inverse, on regarde le type de lexique qui va être utilisé dans les déclarations du G20, eh bien, on nous parle d'excès des effets de levier, on nous parle de procyclicité de la finance, autant du point de vue de la prise de risque que s'agissant du crédit. On nous parle du caractère pernicieux des règles de formation des prix sur les marchés d'actifs et de prise en compte dans les bilans sur la base des nouvelles nomenclatures comptables de type fair value. Et on nous parle de sous-estimation du risque systémique dans ce type de document. Ce qui veut dire qu'il y a un changement de ton, un changement de lexique, et également du point de vue des modalités envisagées, l'accent est placé sur les règles, sur des réglementations et beaucoup moins sur les disciplines de marché. Dans ce cadre, une nouvelle expression va apparaître, qui a connu un réel succès depuis ces diverses réunions du G20, mais un petit peu avant quand même, hein, c'est la notion de politique macroprudentielle. Politique macroprudentielle qui, finalement, ont vocation à traiter du risque systémique, et donc du risque qui peut se dessiner à l'intérieur même du système financier, mais également dans les rapports entre le système financier et la dynamique macroéconomique. Et donc il y a là une certaine évolution, hein, du point de vue de la perspective adoptée par ces feuilles de route, hein, donc le type de projet qui est adopté sur le plan d'abord politique. Alors du coup, la question que je me pose, finalement, elle est assez simple. Est-ce qu'on est simplement en présence, par l'adoption de ces politiques macroprudentielles, et il va s'agir un peu de les détailler évidemment, simplement d'un approfondissement technique, hein, c'est un petit peu la première question que je vais aborder du point de vue de ce que sont les principes qui sont sous-jacents à l'adoption de ces politiques macroprudentielles, ou bien est-ce qu'on va un peu plus loin? Et l'hypothèse que je voudrais défendre, c'est que, j'utilise l'expression paradigme, je ne suis pas très respectueux ce faisant de la définition de Thomas Kuhn, hein, mais pour bien marquer les esprits, je pense qu'il y a un changement profond de perspective, notamment du point de vue des rapports entre les politiques publiques et la façon dont on appréhende le fonctionnement des marchés financiers. D'où l'idée d'un changement de paradigme, parce que à la fois l'inspiration quant aux causes et les réponses apportées me semble tout à fait nouvelle, mais c'est un paradigme inachevé, parce qu'il est loin d'être encore mis en place. Hein, il y a non seulement des tractations, mais un vrai rapport de force qui s'établit aujourd'hui entre la volonté des superviseurs et puis les lobbies bancaires en la matière. Et puis, deuxièmement, parler d'un paradigme suppose qu'on ait un modèle véritablement bouclé, un modèle canonique, nombre d'applications économétriques de nature à pouvoir valider un certain nombre d'options. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, je veux vraiment mettre l'accent sur le côté inachevé. D'où mon exposé que je vais vous proposer en trois temps. D'abord, quels sont les principes, hein, de quoi parle-t-on s'agissant des politiques macroprudentielles? Est-ce simplement une innovation proposée par les superviseurs? Ou bien y a-t-il là une ligne théorique que l'on peut redessiner? Et donc, quels sont les fondements théoriques de ces politiques macroprudentielles? Et en dernier lieu, pourquoi est-ce que cela est inachevé? Ce sera un peu ma conclusion, je ne pourrai pas détailler tous les points que j'ai envisagés dans mon texte. C'est inachevé et il y a encore beaucoup d'incertitudes dans la mise en œuvre. Alors, premier point, quels sont les principes de ce qu'on appelle une politique macroprudentielle? Bon, rappelons très vite d'abord que toute réglementation dans une économie de marché peut obéir à trois types de justifications: des distorsions de concurrence, la protection des consommateurs, donc pour nous, dans l'industrie bancaire, cela pourrait recouvrer la protection des déposants ou bien des actionnaires, et puis troisième élément, répondre à des externalités négatives. Et clairement, la réglementation des banques s'attache principalement un peu au second, mais surtout au troisième volet que je viens d'évoquer, puisque la réglementation a pour fonction d'internaliser le coût social d'une faillite et donc de brider les comportements à risque. Et cela signifie que l'on conçoit ce faisant que la stabilité financière est un bien public et qu'il convient ce faisant donc d'introduire des règles contrôlées, surveillées par les pouvoirs publics. Jusqu'ici, la réglementation prudentielle, telle qu'elle a été progressivement d'abord installée sur le plan domestique, mais également étendue à l'échelle internationale dans le cadre du comité de Bâle avec les premiers ratios, ratio Cook, ratio McDonough, Bâle 1, Bâle 2, etc., avait une sorte de spécificité par rapport à cette question. Il s'agissait de réglementation micro-prudentielle. C'est-à-dire que l'objectif était en fait de maîtriser la situation individuelle des banques, et donc de faire en sorte que leurs risques soient mieux gérés du point de vue de leur situation propre, indépendamment de leur insertion dans un système financier. Or, il est apparu pendant la crise que le risque de défaut d'une banque à l'intérieur d'un système financier eh bien, pouvait naître de tout un ensemble d'éléments, même si les risques à l'intérieur d'une banque étaient bien diversifiés et respectaient les critères de la réglementation micro-prudentielle. Simplement parce que, eh bien, il y a nombre d'interdépendances, il y a des relations, notamment en termes de liquidité, qui ne cessent de gouverner les rapports entre les divers intermédiaires financiers. Et donc, eh bien, on s'est dirigé vers une sorte de déplacement d'angle d'attaque de la réglementation prudentielle, un changement d'optique, qui est assez bien résumé par un tableau qui est souvent utilisé et qui émane de Claudio Borio, qui est un économiste de la BRI, et qui oppose en quelque sorte ces deux perspectives, la perspective micro-prudentielle et la perspective macro-prudentielle. On voit bien que sur le plan micro-prudentiel, l'idée c'est de limiter les difficultés individuelles des institutions, parce qu'il faut protéger les investisseurs ou les déposants, et cela en s'intéressant en fait à un risque spécifique, hein, qui est propre à une institution individuelle. On ne tient pas compte des corrélations entre les institutions, et donc l'important pour assurer la stabilité financière, c'est une logique bottom-up, en supposant qu'en maîtrisant bien à la base les risques individuels, on produit une sorte de composition d'ensemble qui assure de la stabilité. La perspective macroprudentielle est symétrique. L'objectif, c'est de limiter l'émergence ou le déclenchement d'une crise financière systémique. Le problème, c'est d'éviter les coûts en termes de PIB, et donc c'est le credit crunch, plutôt que le déposant ou bien l'actionnaire. Et donc en considérant que le risque devient quelque chose qui est endogène au système financier, à l'articulation entre le système financier et la dynamique macroéconomique, parce que les corrélations entre les institutions sont importantes, et donc on inverse le processus en termes de perspective. C'est donc top-down, on part de la source d'instabilité systémique pour le traduire sous la forme d'une réglementation qui s'applique ce faisant aux banques. Alors, s'agissant de cette logique macro-prudentielle, on peut considérer qu'il y a trois volets bien distincts, hein, qui vont, ce faisant, être poursuivis pour tenter de mieux les maîtriser. Il s'agit à la fois d'atténuer les sources d'instabilité sur le plan systémique, donc à l'échelle de l'ensemble du système financier, de réduire la procyclicité, et troisièmement, de s'atteler au risque spécifique d'un certain nombre de grosses institutions dont on considérera qu'elles s'apparentent à des institutions systémiques, un peu en référence à ce que nous a révélé l'histoire de la crise financière de 2007, 2008 et 2009. Bon, le troisième volet est assez simple, hein, on comprend bien qu'il y a des entités qui pèsent plus lourdement que les autres, et il s'agit alors de dire que ces entités systémiques, dont la taille ou bien dont les effets de levier sont tels qu'un accident aura des effets beaucoup plus importants, de façon donc avec des contagions, des propagations, que pour une petite entité, eh bien, cela veut dire alors qu'il faudra augmenter le poids de la réglementation, notamment en termes de consommation en fonds propres, d'une certaine manière pour compenser l'aléa moral qui lui-même s'accompagne, bien sûr, d'un statut de « too big to fail » de la part des banques centrales. Donc, de ce point de vue, le troisième volet n'est pas très, très, très original. C'est les deux premiers qui me paraissent plus importants et qui renvoient à une idée clé, qu'on trouve très bien développée aujourd'hui dans la littérature grise des banques centrales, parce que c'est là qu'aujourd'hui les discussions, pour une très, très large part, sont menées. Notamment la Banque d'Angleterre, qui a produit un rapport tout à fait remarquable sur cette question. Et puis, non, ça c'est le bilan financier, c'est pour tout à l'heure. Il doit y avoir le texte. Donc, du point de vue de l'idée clé, en quelque sorte, hein, on trouve dans cette littérature, je le répète, Banque d'Angleterre ou bien nombre de rapports de la BRI, une idée centrale. L'idée centrale, c'est que finalement, quelles sont les sources principales d'instabilité systémique, et en particulier, bien sûr, en référence à la crise. La Banque d'Angleterre nous dit, c'est premièrement la tendance à l'excès de prise de risque en phase haute du cycle. Les banques se comportant tout à fait différemment dans cette phase par rapport à ce qu'est leur comportement en phase au contraire de ralentissement. Deuxième élément, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la sous-estimation des spillovers, donc des phénomènes de contagion à l'intérieur même du système bancaire. La BRI va utiliser un autre vocabulaire, mais qui recouvre d'une certaine manière la même réalité. À la BRI, on distingue plutôt, d'une part, une dimension temporelle du risque et une dimension transversale. La dimension temporelle, c'est à nouveau l'idée selon laquelle eh bien, il y a une dynamique de la prise de risque, à la fois sur le plan individuel et sur le plan global, dans la phase haute du cycle. La dimension transversale, ce sont les expositions croisées entre les diverses institutions bancaires. Je l'ai déjà évoqué. Eh bien, ce qui caractérise au fond une politique macroprudentielle, c'est de se focaliser sur le premier volet, c'est-à-dire sur la dynamique temporelle et l'évolution de la prise de risque des banques tout au long du cycle économique, d'où le fait que les politiques macroprudentielles vont viser la réduction de la procyclicité. Procyclicité dans le volume du crédit, procyclicité également dans la prise de risque, alors même que les politiques microprudentielles sont incapables de le traiter et voire même accentuent la procyclicité, compte tenu, on a pu l'observer, des règles comptables qui ont été adoptées depuis quelques années. Alors comment le faire? Comment tenter, avec des instruments réglementaires, de mieux maîtriser cette procyclicité de l'activité des banques dans le système économique. Alors, il y a en la matière un objectif qui consiste à utiliser des outils qui vont modifier les conditions de gestion des risques, notamment par le jeu du montant des capitaux propres exigés des banques, afin de pouvoir réagir dans des conditions différentes selon que l'on est en phase haute du cycle ou au contraire en phase de ralentissement, l'idée étant qu'il convienne d'intervenir avant même que ce soit accumulé les fragilités financières et donc avant même que le surendettement soit apparu, avant même que les bulles sur les marchés d'actifs se soient réellement et de façon tout à fait drastique installées. Alors il est clair qu'on voit bien déjà, et je vais un petit peu détailler du coup ce que sont les formes que cela peut prendre. On voit bien qu'on est loin simplement d'un changement de technique du point de vue de la réglementation, puisqu'il s'agit finalement d'introduire la macroéconomie, la dynamique macroéconomique dans la réglementation prudentielle qui s'applique aux banques. Alors, du coup, bien sûr, il y a plusieurs problèmes qui ex ante apparaissent. Premièrement, comment caractériser les phases de boom, les phases au cours desquelles les fragilités financières vont s'accumuler? Et puis, deuxième type de difficulté, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour internaliser ce type de risque dans le fonctionnement interne d'une institution bancaire. Alors, s'agissant du repérage de ce que sont ces phases, on a une littérature qui, quand même, aujourd'hui a été pas mal documentée et qui met en avant au moins deux indicateurs, dont l'un d'ailleurs va être pris en compte explicitement dans les propositions du comité de Bâle. Premièrement, c'est le rapport du volume global du crédit sur le PIB, notamment en termes d'écart vis-à-vis de son cycle, de la tendance, dans ce qu'on appelle le gap du crédit. Et deuxièmement, bien sûr, c'est les booms sur les prix d'actifs. Donc c'est des écarts par rapport à ce que pourraient être des valeurs fondamentales, ou en tout cas des évolutions tendancielles, marché immobilier ou bien prix sur les marchés boursiers. Une fois donc qu'on a cette proposition, et là évidemment il y a discussion dans la littérature pour arriver à caractériser ce que sont les phases au cours desquelles ces difficultés sont en train de s'accumuler. Ensuite, la question qui se pose est de savoir comment on peut s'y prendre. Et donc, quelle est, du côté du comité de Bâle, aujourd'hui, quelle est la panoplie des objectifs visés? Et vous avez, avec ce slide, vous avez en quelque sorte un résumé de ce qu'on appelle le package du comité de Bâle et qui, à l'heure actuelle, donc, est en cours d'approfondissement, avec à la fois des éléments qui correspondent à l'approfondissement de ce qu'étaient jusqu'alors les options en matière prudentielle, et puis des éléments nouveaux qui n'existaient pas. Alors, les éléments d'approfondissement, c'est une façon un petit peu différente de, à la fois de définir les fonds propres, de calculer les ratios d'exigence en termes de solvabilité, c'est le premier volet. Mais les éléments importants, c'est premièrement l'introduction de nouveaux ratios de liquidité, donc les banques surveillées, mais qui vont prendre en quelque sorte une importance bien plus grande que tel était le cas auparavant. Deuxième élément qui apparaît en quatrième, là, sur mon slide, c'est l'introduction d'un ratio de levier, hein, qui va venir s'ajouter à la prise en compte de l'évaluation du risque, de l'évaluation donc de la prise de risque d'une banque, mais pondérée, hein, en fonction donc de tout un ensemble de critères. Et puis le dernier point, qui est un peu le plus original, dont les échos parlaient ce matin d'ailleurs, hein, tu as dû voir ça Jean-Marc, c'est la question des volants contracycliques de fonds propres. Ça, c'est assez original et c'est au cœur, finalement, du côté un petit peu innovant de ces propositions. Alors, je voudrais prendre trois exemples. Hein. On n'a pas le temps de tout détailler. Je suis un peu plus précis dans mon texte. Je voudrais prendre trois exemples du point de vue de ce que sont les options qui sont en train d'être, en ce moment, calibrées, hein, et mieux définies par le comité de Bâle. Alors, premier élément, l'introduction d'un ratio de levier. Alors, ce n'est pas totalement innovant pour tous les pays. Même si on avait basculé dans le dispositif Bâle II, certains pays avaient mis en place un ratio de levier en tant que tel, les États-Unis et le Canada. Vous allez me dire, mais alors ce n'est pas une garantie, hein, si les États-Unis l'avaient mis en place. Oui, mais les États-Unis ne l'appliquaient pas aux banques d'investissement, ne l'appliquaient qu'aux banques commerciales. Quant au Canada, ça a été appliqué de façon drastique, et vous savez que les banques canadiennes ont été totalement préservées de la crise. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de défaut au sein des banques canadiennes. Et donc, c'est un peu sur la base de ce constat, mais que je voudrais illustrer sur le plan empirique, qu'il a été décidé désormais de mettre en place un ratio de levier. Quel est le constat? Vous avez sur ce graphique qui émane du forum, maintenant on l'appelle le Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle. Alors, bien sûr, c'est compliqué de mesurer les ratios de levier. Hein, ou les multiplicateurs de levier, hein, selon comment on les mesure. Mais en faisant confiance au comité de Bâle en la matière, vous avez là l'évolution des leviers en termes de multiplicateurs de levier. Et donc, c'est le montant, finalement, des actifs rapportés à l'évaluation des fonds propres. Dans cette période des années 2000, qui est quand même une période qui va nous conduire à cet accident systémique, il est frappant de constater, par exemple, que les banques commerciales américaines, hein, c'est sur le graphique de gauche la courbe en rouge, n'ont pratiquement pas augmenté leur niveau de levier, mais elles étaient contrôlées par un ratio de levier par le superviseur américain. Par contre, il est frappant de constater qu'on a, s'agissant soit du World Top 50, donc des grandes banques à l'échelle mondiale, soit du côté des banques d'investissement américaines, ou bien si on regarde sur le graphique de droite, ce qui s'est passé s'agissant des banques en Europe continentale, ou bien dans le cas également du Royaume-Uni, on a une très forte augmentation des niveaux de levier, donc de la prise de risque, et cela s'est opéré à une hauteur qui est pratiquement de l'ordre de 50%. Donc c'est là un indicateur de la fuite en avant qui a été observée ici au niveau des intermédiaires financiers. Eh bien l'idée, c'est que désormais, il va s'agir de contrôler le montant de ces leviers, car il faut ajouter que dans le même temps, pendant cette période qui, entre 2000, 2003, 2004, et puis surtout le rapprochement vers 2007, où les leviers calculés de façon un peu frustre augmentaient beaucoup, la plupart de ces banques respectaient totalement les ratios pondérés par les risques tels qu'ils avaient été définis par Bâle II. Simplement parce que l'évaluation du risque pondéré les conduisait à considérer que leur prise de risque était beaucoup plus faible, d'où le fait que les superviseurs, bon, en tout cas ce qu'on peut en savoir, aient assez peu réagi en la matière, bien sûr, notamment et surtout aux États-Unis. D'où le fait que dans les propositions du comité de Bâle, eh bien, on envisage de créer un levier de 3%, donc un maximum de multiplicateurs aux alentours de 30 qui s'appliquerait à l'ensemble des banques qui feraient partie de systèmes bancaires adoptant les standards internationaux. Deuxième exemple, c'est les ratios de liquidité. Bon, c'est un ratio que les banques suivent, mais là, il y a assez peu d'informations aujourd'hui du point de vue de ce que sont les calibrages envisagés. Et puis, il y a un vrai bras de fer entre les superviseurs et les banques, parce que, en termes de méthode, vous savez sans doute que la méthodologie est simple. Les superviseurs réunis dans le comité de Bâle font des propositions, distribuent un document soumis à consultation, et les banques, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'organismes représentatifs, font des simulations et font des contre-propositions. Donc ce sont des règles qui supposent un certain nombre d'allers-retours. On n'a pas vraiment en la matière, donc, s'agissant des ratios de liquidité, des éléments sur le calibrage, mais l'idée elle est simple. L'idée, c'est qu'il faut obliger les banques désormais à pouvoir résister à un choc de liquidité avec un premier ratio dit de court terme, à savoir qu'elle puisse résister pendant un mois sans entrer en scène des autorités, toute seule, et puis un autre ratio dit de long terme qui a pour objectif de réaliser un appariement plus marqué entre les maturités du côté du passif, donc des ressources, et les maturités du point de vue des affectations, donc du point de vue des crédits ou bien des placements réalisés. Mais c'est relativement standard, on connaissait, mais là, disons que ça va être pris en compte de façon totalement explicite dans le nouveau dispositif que je qualifie de caractère macro-prudentiel. Le plus intéressant, c'est le dernier volet, hein, parce que là, il est vraiment original, et puis il est très emblématique de ce qu'on appelle donc le macro-prudentiel. L'idée, c'est d'introduire désormais des provisionnements qui vont évoluer tout au long du cycle. Alors, on connaissait ça avec l'Espagne, qui avait déjà introduit un provisionnement dynamique. Alors, on va appeler ça de manière un petit peu différente. Au comité de Bâle, on appelle ça des volants contracycliques de fonds propres, ou fonds monétaires des amortisseurs non discrétionnaires, peu importe le vocabulaire. L'idée, c'est que, en fonction de la situation d'une économie dans le cycle macroéconomique, on applique aux banques des exigences qui peuvent être supplémentaires en matière de fonds propres, qui vont s'ajouter à ce qu'étaient les exigences qui, sur une base micro-prudentielle, déjà devaient présider à la gestion des risques à l'intérieur des banques. Alors, ce n'est pas un ratio, c'est une cible qui va désormais être publiée, qui va être mise à la disposition des superviseurs pour les mettre en application de façon discrétionnaire, mais d'une manière telle qu'elle puisse, c'est l'objectif, anticiper sur l'accumulation des tensions financières. La Banque d'Angleterre parle d'une politique de discrétion contrainte, donc ce n'est pas un ratio impératif, c'est une façon nouvelle de donner des outils aux superviseurs pour pouvoir mieux maîtriser, pendant le cycle, la prise de risque des banques. Alors, le comité de Bâle a choisi comme indicateur privilégié, à la fois pour repérer les phases de boom et pour déclencher un processus de provisionnement contracyclique, le ratio entre le volume global du crédit accordé au secteur privé et le PIB. En calculant en réalité un écart, un gap, par rapport à ce qu'est la tendance, et je voudrais l'illustrer avec un double graphique là, qui apparaît dans un des rapports tout récents du comité de Bâle, et qui montre bien comment, finalement, on conçoit la mise en œuvre de ce type de provisionnement de caractère dynamique. Donc ça concerne la Grande-Bretagne. Et vous avez d'abord, du côté gauche de ce graphique, vous avez l'évolution, tout simplement, du ratio du crédit sur le PIB. Et donc vous avez ici, en bleu, l'évolution de ce ratio, que je représente avec ma flèche, là. Et cela depuis le début des années 90. Et puis on calcule, tout bêtement avec un filtre de type Audric Prescott, on calcule une tendance qui est constamment, bien sûr, actualisée. Et sur cette base, eh bien, la différence, bien sûr, entre le trend et l'observation à chaque instant du temps, par trimestre peut-être, du volume du crédit rapporté au PIB, nous donne un gap qui est représenté ici en vert. Ce gap peut être positif lorsque, bien sûr, il y a une sorte de fuite en avant dans le crédit. Il peut être négatif quand au contraire il y a un ralentissement de la dynamique du crédit par rapport à sa tendance. Et là, eh bien, on voit bien hein, ce qui s'est passé entre 94 et entre 2004 et puis 2008. C'est ce fort décrochage des niveaux donc, de crédit accordés dans le système bancaire britannique par rapport à la tendance. Et donc, on voit bien ici qu'on a un gap qui devient très nettement positif. Que fait-on ce faisant? Eh bien, on passe donc au côté droit. On indexe des provisionnements dits contracycliques sur le niveau de ce gap. C'est-à-dire que c'est représenté en bleu. On voit que si le gap est négatif, eh bien, les provisionnements contracycliques sont nuls, hein, puisque ce n'est pas la peine d'intervenir à partir du cycle macro dans la politique de distribution du crédit des banques. Par contre, lorsque on voit apparaître un gap de plus en plus élevé, eh bien, il y a, mais dans une limite, hein, il y a un seuil hein, qui ne peut pas être dépassé, en discussion, 2-3%. Ça fait partie encore des choses dont on pourra peut-être découvrir dimanche la traduction opérationnelle. Eh bien là, donc, on va exiger un montant supplémentaire de fonds propres, l'idée étant évidemment de réduire le volume du crédit, la dynamique du crédit, compte tenu de cette consommation plus élevée en fonds propres. Donc, voilà là une illustration qui montre bien, me semble-t-il, et dans le cas britannique ici, on voit bien qu'il y a eu un dérapage de la création monétaire et donc du crédit en l'espèce dans cette deuxième moitié des années 2000. Eh bien, le macroprudentiel, ce faisant, ce n'est pas simplement un changement de technique, c'est l'idée d'introduire le cycle dans la façon dont on essaie de maîtriser la gestion du risque par les banques sur le plan individuel. Alors, si on essaie de synthétiser ce premier point, hein, la réponse à ma première question, bon, moi je crois qu'il est assez clair et bon, j'espère peut-être vous en convaincre qu'on a là un changement, alors je ne sais pas si c'est vraiment un paradigme, mais on a un changement total de perspective quant à la façon dont on envisage la maîtrise des risques individuels, puisque désormais le risque est supposé être un risque endogène au système économique, et pas lié à des chocs hein, qui viendraient un petit peu pour chaque banque perturber leur gestion des risques. Ce qu'il faut maîtriser, c'est la procyclicité du crédit, c'est la procyclicité du risque, c'est la procyclicité des prises de position à risque de la part des banques. C'est, pour moi, l'antithèse de la discipline de marché, du point de vue du traitement du risque global. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, finalement, on a là un bricolage des superviseurs hein, qui ont essayé de répondre pas à pas avec les ratios de liquidité, avec les fonds contracycliques, ou bien avec l'introduction d'un ratio de levier à ce qui s'est passé dans l'avant-crise, ou bien est-ce qu'on est quand même dans un ensemble réglementaire qui renvoie à l'analyse économique et qui répond d'une certaine manière à pardon, une conception de ce que sont les sources d'instabilité. Et donc, c'est le deuxième volet que je voudrais aborder. Y a-t-il des fondements théoriques à ces politiques macro-prudentielles? Je pense pour ma part que la réponse est oui. Et cette question va, du coup, nous ramener à la crise elle-même et au rapport un peu douloureux entre les économistes et la crise, dont je crois qu'on doit aussi un petit peu parler. Car finalement, quand on essaie de décomposer ce que sont les éléments constitutifs qui ont débouché sur la préparation de ce type de politique macro-prudentielle, d'une certaine manière, en creux, c'est une façon de mettre en cause tout un certain nombre de schémas qui étaient utilisés jusqu'alors pour évaluer le type de risque qui pèse à partir du comportement des banques sur la dynamique macroéconomique. Car d'une certaine manière, eh bien, il y a là un certain nombre d'options qui sont très éloignées de ce que l'on pourrait appeler le consensus, qui pouvait régner autant sur le plan macroéconomique que sur le plan microéconomique avant la crise. Il y a en effet un certain éloignement que l'on peut, me semble-t-il, repérer à la fois sur le plan microéconomique, parce qu'on est loin évidemment là des hypothèses d'efficience informationnelle des marchés actifs, hein, qui pourrait être appliqué donc à une banque perçue comme étant un portefeuille finalement gérant un actif et un passif. Et on est loin également de la modélisation macroéconomique qui prévalait encore jusqu'alors, y compris dans le monde des banques centrales, afin de pouvoir réaliser des simulations de chocs de politique économique. Et donc, de ce point de vue, il y a, me semble-t-il, là, la conversion à un principe de réalité par rapport à ce que la crise a révélé. Alors, du coup, je voudrais très vite, peut-être, vous rappeler un petit florilège d'un certain nombre de jugements qui ont été apportés par de très bons économistes à l'échelle mondiale sur ce qui s'est passé avant et pendant le développement de la crise, pour répondre à certaines critiques qui nous ont été adressées en tant que profession, même par la reine d'Angleterre, vous ne l'ignorez pas, dont beaucoup d'ailleurs étaient tout à fait injustes, excessives. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prévu la crise que pour autant on ne disposait pas des outils permettant d'évaluer ce qu'était tout un ensemble de tensions. Mais voyez, on s'est quand même beaucoup trompé par rapport à ce qu'était la montée des incertitudes financières pendant cette seconde moitié des années 2000. Et donc l'idée, c'est que, d'une certaine manière, ce petit florilège-là illustre, c'est que tout un ensemble de mécanismes qui ont joué entre les années 2003-2004, dans la montée des fragilités, puis l'éclatement de la crise, sur un plan macroéconomique. Je ne parle pas là des subprimes, de façon spécifique, des innovations à risque. Tout ça, finalement, eh bien, n'était pas intégré dans les modèles que les économistes majoritairement utilisaient, et en particulier, la question de la procyclicité du crédit est une question absolument fondamentale qui n'était pas réellement traitée, en tout cas dans les modélisations qui étaient mobilisées. De la même manière, les bulles sur les marchés d'actifs, les problèmes de liquidité, les problèmes de contagion, eh bien, il y avait des littératures en la matière, mais étaient finalement assez largement, je le répète, aussi négligées. D'une certaine manière, tout un ensemble d'enchaînements qui n'avaient pas leur place dans ce qu'on pourrait appeler entre nous le mainstream, sur un certain nombre de sujets afférents à ce dont je vous parle, eh bien, c'est ce qui fonde un petit peu en creux les politiques macroprudentielles. Et de ce point de vue, il est extrêmement frappant aujourd'hui de lire la littérature grise au Fonds monétaire international. Chez les superviseurs, il y a un changement de cap tout à fait impressionnant. Je lisais même un petit papier dans Alternative économique où un chroniqueur nous disait mais ils vont plus loin qu'attaque. Il y a effectivement des textes extrêmement précis sur le plan analytique, mais qui mettent en cause la façon dont nous raisonnions il y a encore peut-être collectivement, il y a simplement 5 ou 6 ans. Alors, y a-t-il ce faisant des bases analytiques à ces instruments, à ces politiques de caractère macro-prudentiel, ou bien est-ce que les superviseurs sont partis de zéro et ont dû bricoler une réponse face à l'urgence de la crise? Nous ne partions pas de zéro. Il y avait une littérature, d'abord une littérature très ancienne, sur le comportement des banques et la place des banques dans le cycle. Il fallait relire un peu Thornton, il fallait relire Wicksell, il fallait se référer à Keynes. Et parmi les contemporains, Minsky, donc je sais que mon ami Jean-Paul n'aime absolument pas les travaux, mais ça ne me convainc pas du coup pour autant du fait que ce n'est pas tout à fait pertinent. Et puis parmi les vivants, Goodhart et Aglietta, qui n'ont cessé depuis au moins 10 ans de mettre en avant ce lien entre le cycle du crédit et les cycles sur les prix d'actifs, fragilisant le système économique, fragilisant d'abord le système financier. Indépendamment de cette lecture un petit peu de grands auteurs, disposait-on de fragments de littérature qui nous permettaient de décomposer un certain nombre de mécanismes qui ont joué et qu'on essaie maintenant de mieux maîtriser? Il y avait des théories des crises financières. Il y avait également des approches empiriques qui se sont beaucoup développées au moment du déclenchement des crises parmi les émergents et qui avaient mis en avant un certain nombre d'indicateurs de fragilité préalables à une attaque spéculative ou un déclenchement soit de crise de change, soit de crise souveraine. On avait également des travaux historiques qui avaient mis en avant en faisant des comparaisons tout à fait approfondies. Bien sûr, le vieux bouquin de Kinnelberger. Mais depuis au moins 2005-2006, il y avait tout un ensemble d'extraits de ce qui sera le bouquin de Reinhard Tirogoff, qui est sorti l'an dernier, qui mettait en avant, sur une période de 800 années, la régularité avec laquelle, lorsque se combinaient des bulles sur le marché de l'immobilier, un excès du crédit par rapport à une tendance, au terme d'une phase de déréglementation, la probabilité d'un accident systémique était extrêmement élevée. Et donc, on connaissait tout ça. Il y avait quand même tout un ensemble d'éléments qui auraient pu nous permettre, en tout cas de façon plus large, d'interpréter la montée des fragilités. Alors, sur la base de quel type de séquence? Eh bien, en rappelant ce que sont Alla Minsky, Alla Kinnelberger, la prise en compte des rapports entre le cycle du crédit et puis le déclenchement d'une crise financière. C'est l'idée qu'il y a toujours trois phases dans ce type de processus. Une phase euphorique, c'est ainsi qu'on la qualifie depuis Kinnelberger, avec une vague d'optimisme des banques, un boom du crédit. Et évidemment, de l'autre côté du marché, un surendettement des agents économiques, une sous-estimation du risque, des incitations, bien sûr, qui vont renforcer la fuite en avant parce que la profitabilité bancaire est très élevée dans la période, justement, de boom et dont les rémunérations vont suivre cette rentabilité, avec des bulles sur les marchés d'actifs, apparaît un ajustement qui peut être purement endogène ou qui peut être lié à un choc de taux d'intérêt, et la remontée des taux américains, bien sûr, à partir de l'été 2004 ou 2005, à peu près, va jouer un rôle non nul en la matière. Les anticipations se retournent, et donc on prend conscience du risque excessif, et c'est là qu'on entre dans une phase où toutes les informations sont interprétées de façon négative. On peut appeler ça la phase neurasthénique, c'est la phase de crise. Tout s'inverse. Le credit crunch, après l'inversion donc des ratios de levier. D'une certaine manière, même si c'est là une présentation qui manque sans doute de rigueur analytique, c'est ce qui s'est passé pendant les années 2000. Et d'une certaine manière, je voudrais tout bêtement l'illustrer à partir de quelques graphiques. On voit bien que, si on regarde le graphique de gauche, les taux d'intérêt qui ont été pratiqués, ce sont ici des moyennes pour 16 pays de l'OCDE. Les taux d'intérêt qui vont être pratiqués dans la première moitié de cette décennie, le graphique de gauche, c'est un écart par rapport à une proxy du taux d'intérêt naturel, c'est la très forte baisse des taux d'intérêt à l'échelle, surtout bien sûr, des États-Unis, où c'est le plus typique pendant cette période, avant la remontée donc de 2004. On a également le graphique du milieu, la très forte baisse des taux d'intérêt à long terme qui apparaît et qui atteint des niveaux qui sont historiquement bas depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et puis vous avez à droite la dynamique explosive du crédit qui apparaît avec une accélération dans la dernière période. La pente devient encore plus nette. Et donc, on a en fait cette situation donc d'optimisme excessif que j'ai évoqué tout à l'heure, qui apparaît assez nettement. On peut l'illustrer de façon encore plus nette en décomposant ce qu'ont été les acteurs de ce boom du crédit dans cette période. Vous avez ici la dette des ménages en pourcentage du revenu disponible brut pendant cette période. Bon, on voit bien que d'abord dans le cas du Royaume-Uni, où on passe d'environ un montant de 100 en 2001-2002 pour arriver à 180, on n'est pas loin d'avoir doublé le niveau d'endettement des ménages donc ici au Royaume-Uni, mais également dans le cas des États-Unis, moins nettement, mais pour autant selon un trend comparable dans le cas européen. Si on regarde maintenant du côté des entreprises, on voit bien que les crédits bancaires accordés aux entreprises tout au long de cette période, eh bien, on suivait un train extrêmement rapide. On est sur un taux de croissance des crédits accordés aux entreprises de l'ordre de plus 15% par an. Là, ce n'est pas un ratio par rapport au PIB, c'est un taux de croissance annuel. Et au même titre que les ménages ou bien que les entreprises, les intermédiaires financiers aussi ont participé à cette fuite en avant dans le surendettement. Et là, exprimé en pourcentage du PIB, on voit qu'aux États-Unis, on est passé de 100 à 120%. Ici, du point de vue du secteur financier, mais que la zone euro également a suivi une évolution relativement comparable, et donc avec un rattrapage de la dynamique qui pouvait être observée dans le cas américain. Et j'ajoute un point, sans inflation. Car cette fuite en avant dans la dynamique du crédit ne s'est absolument pas traduite ni par une accélération de la croissance, ni par une accélération de la dérive des prix, donc de l'inflation. Ce sont les prix d'actifs qui ont été le réceptacle de cette alimentation en liquidité liée à ce cycle du crédit qui n'avait pas été maîtrisé par le jeu ni des politiques monétaires, ni des instruments prudentiels. Alors, pourquoi a-t-on négligé tout ça? C'est un peu une énigme. Après tout, on disposait de nombre d'éléments. Bon, il y a une double explication que moi je trouve assez convaincante, qui est donnée par Willem Buiter dans un papier qui est sorti en 2009. Il dit finalement il y a deux éléments qui ont joué. Le premier élément, c'est la mise en avant de ce qu'on appelle depuis la grande modération. C'est-à-dire que, en regardant ce qu'étaient les performances qui étaient enregistrées par les pays industriels depuis maintenant 15-20 ans, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise de sa volatilité, un niveau de croissance qui, quelque part, était un niveau de croissance, peut-être pas en France, mais en tout cas pour l'ensemble des pays développés, relativement jugé satisfaisant, eh bien, on a négligé le fait que des tensions pouvaient s'accumuler et qu'en réalité, on avait une croissance qui, très largement, était alimentée à découvert par une fuite en avant dans le surendettement. Donc, peut-être une illusion s'est créée à cause des bonnes performances à partir des deux principaux indicateurs qui étaient visés par les policymakers, à savoir l'inflation et puis la croissance, même si en Europe, c'est beaucoup plus nuancé, évidemment, compte tenu de ce qui se passait sur le plan du marché du travail. Le deuxième volet de l'explication de Buiter, qui me paraît intéressante et qui, d'une certaine manière, nous renvoie à notre discipline, c'est le fait que ce que je viens d'évoquer comme étant en quelque sorte le soubassement sur le plan analytique des politiques macro-prudentielles, cela n'avait pas du tout été pris en compte, intégré dans ce que l'on pourrait appeler un modèle canonique. Il n'y avait pas, un peu comme à l'inverse, on peut le trouver avec la synthèse de Boudreau, ou bien dans d'autres types de perspectives, des travaux qui aient pu déboucher sur un modèle complètement bouclé, présente des validations économétriques pleinement convaincantes. C'était peut-être un peu... Aiken Green parle d'un climat intellectuel. Ce n'est pas vraiment un modèle de nature, notamment, à fédérer les académiques. Et il y a une expression que je trouve, moi, assez intéressante de Buiter. Il nous dit, on avait les outils pour comprendre la montée des fragilités, mais c'était un pot-pourri. Un pot-pourri d'indicateurs de crise préalable, un pot-pourri de comparaison historique. Ce n'était pas véritablement un modèle. Le problème, c'est que la crise a confirmé la pertinence du pot-pourri. Et donc, cela nous renverra, mais ça sera ma conclusion, à ce que peuvent être les agendas de recherche. Je note, juste un peu pour rire, et je me retourne vers mon ami Jean-Paul Paulin, que Jean-Claude Trichet lui-même, dans un article que j'ai découpé du Monde, c'était le 17 novembre 2009, conseillé pour bien comprendre la crise, la lecture, il ne disait pas la relecture, de deux auteurs, en l'occurrence Hyman Minsky et Frank Knight. Et donc, on comprend ce faisant que désormais, les banques centrales ont de très bonnes lectures, quoi qu'en pense mon ami Jean-Paul. Eh bien, ce faisant, on peut considérer que ces politiques macro-prudentielles ont des fondements théoriques, mais ces fondements théoriques sont largement inachevés. Ils sont loin d'avoir pu déboucher aujourd'hui sur des modélisations qui soient pleinement satisfaisantes. Mais pourtant, ce n'est plus réellement hétérodoxe de se référer à ce type d'enchaînement face au principe de réalité que la crise a placé devant nos yeux. J'ai oublié tout à l'heure d'ajouter un slide, mais voyez aussi l'évolution ici de l'appréciation par les marchés du risque tout au long de la période qui nous rapproche de la crise. On voit que systématiquement, ce sont des spreads par rapport à des actifs supposés sans risque, dette publique, aujourd'hui on les appellerait peut-être autrement, mais typiquement on voit bien qu'il y a une diminution de l'évaluation par les marchés de la prise de risque, tout au long de la période qui nous rapprochait de l'accident systémique de la fin de l'été 2007 et surtout de l'automne 2008. Alors, je voudrais, parce que j'ai peut-être déjà été un peu long, essayer d'en conclure rapidement sous deux volets, qui, l'un et l'autre, tentent de répondre à la question suivante. Est-ce que vraiment c'est un nouveau paradigme? Est-ce que c'est une nouvelle façon à la fois d'interpréter et de tenter de maîtriser les sources d'instabilité financière? En réalité, c'est là, plus qu'un paradigme, une façon d'aborder les choses, une perspective qui reste encore très largement inachevée. Et inachevée pour deux raisons. La première raison, c'est que, pour l'instant, les choses ne sont pas encore installées. Autrement dit, ce sont des propositions du comité de Bâle, ce sont des propositions, notamment au niveau du calibrage, qui restent encore soumises à discussion. On verra ce que le G20 du mois de novembre va décider. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on observe qu'il y a un véritable bras de fer qui s'est dessiné entre, d'un côté, les superviseurs, les banques centrales, et puis, d'un autre côté, les milieux bancaires. Et cela est apparu tout récemment à propos de la fameuse question du prix à payer en termes de croissance, de ce renforcement des exigences en fonds propres, soit directement, soit par le jeu des volants contracycliques. Peut-être avez-vous lu ça pendant l'été, pendant le mois d'août. On a eu, en réponse à une grosse simulation qui avait été proposée par l'Institute of International Finance, qui est en fait un lobby bancaire, qui mettait en avant le fait qu'on risquait de perdre dans la phase transitoire pratiquement 3 points de PIB sur 5 ans, et donc on avait un trend qui serait amputé pratiquement d'un demi-point à l'échelle de l'ensemble des pays industriels. Et puis on a eu la réponse avec deux rapports très précis qui ont été proposés pendant l'été, à la fois par le comité de Bâle et puis par le Conseil de stabilité financière, qui disent que pas du tout. Dans la phase transitoire, il n'y a pas d'effet significatif, à quelque chose près. Par contre, dans la phase de long terme, les effets sont extrêmement positifs. Pourquoi ne disent-ils pas la même chose? Eh bien, simplement parce que le rapport de l'Institute of International Finance n'a pas lu Modigliani-Miller, tout simplement. Et le comité de Bâle, oui. C'est-à-dire que le comité de Bâle a intégré le fait que si la prise de risque est tout à fait différente, eh bien, ce faisant, les exigences de fonds propres ne devraient pas occasionner une augmentation très forte du coût du crédit, mais par contre diminuer le niveau de rémunération des actionnaires ou bien le niveau de rémunération à l'intérieur des banques, de telle manière que finalement le rendement pondéré par le risque en la matière reste constant. Et ça, le comité de Bâle en tient compte, et pas les banquiers. Et puis il y a un autre élément aussi qui intervient, c'est que dans la simulation du comité de Bâle, on tient compte du fait que la probabilité d'apparition des crises bancaires et donc des pertes d'output qu'elles occasionnent, est un élément à prendre compte dans le bilan entre les éléments négatifs et les éléments positifs. Or, l'étude des lobbies bancaires n'a pas pris en compte le fait que, grâce à ce type de politique, on avait quand même quelques chances de diminuer la probabilité d'émergence de ces crises de caractère systémique. Enfin, second élément, et c'est ce sur quoi je vais conclure, s'agissant du caractère inachevé de ce paradigme. Bon, il est clair qu'on est en présence quand même là de tout un ensemble de justifications que je considère moi comme étant tout à fait pertinentes et de nature à bien répondre à ce qui s'est passé. Mais il est clair que nous avons de gros efforts à fournir pour, en particulier, réintégrer les systèmes financiers dans l'analyse macroéconomique. Car jusqu'à présent, on avait une version squelettique dans les gros modèles macroéconomiques, comme sur le plan théorique d'ailleurs, des systèmes financiers, de l'intermédiation, de la façon dont les risques peuvent évoluer. Et cela simplement parce que c'était des littératures qui se rejoignaient assez peu. D'un côté, la littérature sur le risque bancaire, sur la microéconomie des risques, et puis de l'autre côté, la macroéconomie. Et donc, d'une certaine manière, il y a là de gros progrès. Il semble à fournir à apporter. Bon, il semble bien qu'il y ait aujourd'hui pas mal d'efforts et donc d'inflexions dans la littérature internationale. Bon, mon espoir, c'est que les Français y participeront. Merci beaucoup.